Les carnets du soir, avec l'abbé Denis Veilleux.
Bonsoir. Les carnets du soir vous proposent ce séjour au Mexique, dont le cœur fut le sanctuaire Notre-Dame de Guadeloupe. Je vous invite à découvrir avec moi ce lieu et les différentes facettes de ce parcours. Et là, nous allons encore faire un petit tour dans la ville de Puebla, et on aime bien les églises. Alors, une autre église, celle de Santa Clara. Et là, le curé se présente. On voit les secrétaires, mais tout de suite, elles appellent le curé, parce qu'ils s'imaginent, le Saint-Sacrement est exposé, ils s'imaginent qu'on voudrait qu'on célébrait la messe. Parce que la secrétaire dit, il y a deux prêtres ici, qui viennent du Québec. Alors, le curé Sergio, qui parle très bien français, est tellement heureux de nous accueillir. Je vous le dis, quand ils connaissent le français et qu'ils peuvent parler français, ils sont ravis. Alors le curé Sergio vient et commence à causer, et là il nous raconte, parce que bon, écoutez, la langue française, ça vient d'où dans sa vie ? Ça vient pas de Puebla, là, ça vient pas du Mexique. Il s'est passé quelque chose. Il a quitté le pays, lui, et il a appris la langue. Il est revenu. Bon, alors il nous trace son parcours d'études, notamment à Paris, à l'Institut catholique, et il nous dit avec un certain contentement. Je vois bien, il se gonfle un petit peu la poitrine parce que bon, il est fier de ce qu'il va nous dire. Alors il nous dit qu'il a 32 ans d'ordination. Alors je le regarde spontanément et je lui réponds que bientôt j'en aurai 38. Alors il se dégonfle. C'est drôle comment nous sommes, comment les êtres humains sont. C'est vrai que c'est beau, 32 ans d'ordination. C'est beau, il était content de nous le dire. Alors moi, spontanément, je lui dis, j'en ai bientôt 38. Alors on est heureux ensemble. Là, il nous indique le chemin pour nous rendre à la chapelle des Franciscains, où se trouve le tombeau, c'est ce qu'on cherche d'ailleurs, où se trouve le tombeau d'un bienheureux franciscain qui s'appelle Saint-Sébastien. Toute une histoire. Saint-Sébastien est né. Il est né en Espagne en 1502 et il est mort en 1600. Vous imaginez, 98 ans. Il est devenu franciscain à l'âge de 75 ans. Alors ne désespérez pas, vous qui pensez avoir la vocation. Franciscain à 75 ans. On l'appelle le père des routes en Amérique. Alors il vient d'Espagne, d'une famille humble, et il arrivera à Veracruz en 1531. Ça vous dit quelque chose, 1531 ? Oui, c'est l'année de l'apparition de Notre-Dame de Guadeloupe à Juan Diego. Alors, il arrive en 1531 à Veracruz. Là, pendant 39 ans, il va travailler avec les indigènes à construire des routes. Ils ne savent pas comment construire des routes. Lui, il l'a appris et il va transmettre son savoir. C'est la raison pour laquelle on l'appelle le père des routes en Amérique. Alors, il travaille pendant 39 ans. Bâtir des routes, bâtir des maisons. Il y a aussi ce métier de charpentier, d'architecte. Alors, il est très doué. C'est un homme très doué. Les gens l'estiment beaucoup. Il jouit d'une très grande vénération. Et comme je vous dis, il est mort à presque 100 ans, franciscain, à l'âge de 75 ans. Alors, c'est un parcours très, très particulier. Son corps s'est conservé. On le garde dans une châsse. Évidemment, quand on dit que le corps s'est conservé, moi je pense que c'est le squelette. On l'a habillé d'une bure, de la bure des franciscains, tout cela. On voit son crâne, mais je pense pas que la chair soit encore après les os. C'est mon avis. les carnets du soir se poursuivent avec une lecture en continu du livre « L'impossible », parole énigmatique pour « Cette nuit noire », dont je suis l'auteur. Le lendemain, subitement, le temps avait changé. Les gens du village appréhendaient un autre ouragan. La peur engendre la mémoire de la peur. Pourtant, Clarisse la Folle était tranquille. On avait appris qu'au sommet de la montagne pointue, il ne restait que des ruines fumantes. Des histoires aussi étranges les unes que les autres alimentaient les superstitions au sujet de la Dame de la Montagne. Sa bienveillance de là-haut, estimée par tant de gens du village, n'existait plus. Cette étoile qui présidait depuis tant d'années la montée de la nuit dans ce décor montagneux ne brillait plus. Si l'impossible effrayait, la montagne pointue rassurait. Une rencontre nocturne et secrète avait eu lieu. Autour d'une grande table s'étaient rassemblés les notables du village. Pour la circonstance, ils avaient conjugué leur pouvoir afin de décider de ce qu'il adviendrait de cette nouvelle descendue dans leur petit village, la Dame de la Montagne. Le banquier se mit à compter ce que l'ouragan avait fait perdre à chacun.
« Les orages approuvissent toujours !» avait-il lancé. « Nous ne pouvons nous permettre d'en essuyer un autre !»
L'homme de loi, à son tour, mit l'accent sur les droits de chacun, faisant valoir qu'il jugeait comme un précédent cette arrivée subite sans l'approbation et le consensus de ceux qu'il représentait. Le responsable de l'ordre, lui, déplora avec force la perte de contrôle qu'avait entraînée cette éruption inattendue.
« C'était pire qu'au marché le vendredi !»
avait-il conclu pour imaginer la scène en soupirant. Monsieur le maire avait écouté cette vénérable assemblée, secrètement réunie, en frisant toujours ses moustaches. Rappelant le récent soulèvement du village à la clairière, il rassembla comme il le put tous les morceaux de cette longue déclaration. Il avait l'art de la synthèse, disait-il, mais repensant à l'épisode de la gifle au curé, il se mit à bafouiller et à perdre le fil de son discours qui n'en finissait plus faute de conclusion. Impatient, le banquier se mit à faire sonner sa monnaie dans ses poches, tout en s'éloignant de la table avec sa chaise. Navré, l'homme de loi se cramponna à la table, jouant au pique-bois avec ses doigts. Nerveux, le responsable de l'ordre soulevait sans cesse sa casquette. Quant aux autres, ils s'étaient mis à tousser à tour de rôle. Monsieur le maire s'embourba si bien qu'il finit par proposer l'ajournement, au soulagement de tous. Poliment, les tenants du pouvoir échangèrent la traditionnelle poignée de main, sans cœur, et rentrèrent chez eux. Les moutons attendaient toujours que Petit-Jean les mène au pâturage. Ils se tenaient les uns près des autres comme une boule de laine et attendaient en piétinant et en bêlant. Cette attitude déplaisait à Petit-Jean. Les poules, elles, au moins, avaient de l'initiative et n'eût été de l'enclos de broches, elles auraient picoré partout. Enfin, le monde des moutons se révélait à lui bien différent des histoires poétiques de la brebis et de son berger. Les moutons étaient bêtes et sans grande intelligence. S'ils ne les avaient constamment guidés et soignés, ils se seraient laissés mourir de faim.
« Ils ne cherchent pas leur nourriture. Ils ne prennent que ce que je leur donne, » se disait-il.
À cela s'ajoutait la réalité de son rêve étrange de là-haut. Il avait maintenant sous les yeux des scènes de rejet. Oui, des brebis refusaient de donner suite à la mise au monde de leurs petits, les repoussant à coups de tête et de pattes. Il avait dû réchapper ses agneaux en les nourrissant lui-même. De retour à la maison, il dit à voix haute à la Dame de la Montagne
« Les moutons sont bêtes, tu sais. Ils ne vivraient pas sans moi. »
La Dame de la Montagne n'allait pas mieux ce jour-là. La fièvre la tenait clouée au lit. Elle ne parvenait pas à trouver le calme intérieur. Elle était agitée au-dedans, et Petit-Jean s'en inquiétait. Les mêmes questions qui s'étaient pointées à lui, là-haut sur la montagne pointue, lui revenaient avec force en bas. C'était comme un vertige de la voir ainsi défaite et sans vigueur,
alors qu'il l'avait connue forte et puissante. Ce n'était plus la même personne. Sa maîtrise du monde caché et sa domination des secrets de la vie s'étaient tout à coup enfuis. C'étaient des heures sans gloire, au pied de la montagne pointue, bien loin de l'impossible. S'approchant d'elle, il vit encore des larmes de sang sur ses joues. Ses yeux morts avaient recommencé leur tracé de peine. Petit-Jean essuya ses joues, son visage. La dame de la montagne pleurait en silence. Ému et troublé, il lui demanda avec impatience « Où est ta force ?» Elle ne répondit pas. Elle pleurait toujours. Quel était cet intérieur tourmenté ? Il la connaissait bien dans ses détours de silence qui cachaient toujours une nouvelle route, libérant les premiers pas des secrets. Puis, ouvrant la bouche, elle dit « Demain, je te dirai où sera ma force. » Ce soir-là, ceux qui gravitent dans l'antichambre du pouvoir se rassemblèrent en cachette. Les dominés ressemblent à ceux qui les dominent. Ils ont la maladie des riches, mais la soignent moins bien. Les riches, eux, ont une pharmacie qui leur permet de contrôler leur dehors de mille manières. Les autres sont moins bien munis sur ce plan. Les riches n'aiment pas les moins riches et les pauvres, car ils savent bien que ceux-ci ont les mêmes maladies qu'eux, mais n'ont pas grand pouvoir sur les remèdes. Hélas, le remède des moins riches et des pauvres, c'est de lécher les bottes et de frotter les souliers des riches. Ceux-ci sont aussi malades que les pauvres ou les moins riches, mais ils feignent la santé. Eux, les riches, se lèchent les uns les autres et se bâtissent des échafaudages sans fin. Ils n'en finissent pas de monter à partir des illusions qu'ils échangent. En coulisses, ils se détestent, alors qu'ils arrivent étrangement à aimer leur bonne ou leur valet. Un mime cocasse que s'offrent riches et moins riches, les uns sertis de diplômes, les autres achetant leur nom. Ils étaient donc là, ces moins riches, jouant aux puissants. Si le mauvais temps persistait, le boulanger fit planer la menace d'une pénurie de farine. On était au seuil de la famine. Le cordonnier, lui, dans un climat de misère, allait se retrouver les mains pleines de souliers troués à réparer à crédit. Tandis que les marchands de viande, de poulet et de poisson firent valoir que le changement brutal de la nature avait de graves répercussions sur leurs matières premières depuis quelques années. Même les poissons ne mordaient plus, car il y avait moins de lumière. C'était les Carnets du soir avec Denis Veilleux qui vous parle. Réalisation technique, Yannick Caron.